Bonjour à tous, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on découvre la réalisation d'un immense dragon destiné à arpenter la digue de Calais. Ensuite, on s'essaye à la coloration textile avec des épluchures de légumes. Oui, ça marche. Et enfin, on devient testeur de tongs au Pays Basque.
Et de maillot de bain.
Et de maillot de bain aussi. Mais auparavant, place à l'actu de ce lundi 20 mai. Bonjour à vous, Denis Farouf.
Bonjour, Frédéric Le Tournier. Bonjour à tous.
C'est à Reims que nous allons, où l'arrêt des soins a débuté pour Vincent Lambert, qui est dans un état végétatif depuis un accident en 2008.
Nous allons entendre la mère de Vincent Lambert qui dénonce une folie et voir la procédure très encadrée de l'arrêt des soins et les nouveaux recours tentés par les parents.
C'est la dernière ligne droite avant les élections européennes.
Avec les 34 listes en France et un débat à la télé, en deux temps ce soir, Nicolas Balu.
Oui, les petits d'abord et les gros ensuite.
Comme sur la photo.
Des opérations escargots sont en cours et notamment en Île-de-France.
À l'appel de syndicats de taxis et d'auto-écoles ainsi que d'une association d'ambulanciers pour protester contre la loi mobilité et la réforme à venir du permis de conduire.
Un jour après les Américains, les accros à la série Game of Thrones vont découvrir le dernier épisode en France ce soir.
La série a débuté en 2011. On se demande pourquoi on en parle autant à Nordenstein.
Parce que c'est une machine à émotions qui casse tous les tabous.
Bienvenue à tous dans Une heure en France.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farouf sur France Bleu.
L'arrêt des soins de Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans, a débuté ce matin au CHU de Reims et a provoqué la colère de ses parents qui dénoncent une folie, et notamment la mère de Vincent Lambert.
Mais ils sont en train de le tuer, on s'en va. Ils sont en train de le tuer sans rien nous avoir dit. C'est des monstres. On lâche les vidéos. C'est des monstres. Dites-leur que c'est des monstres.
Vous l'avez su par email, madame?
Point. Oui, ce matin.
Qu'est-ce qui est écrit dans le mail?
Par email. Ah, ben ils ont dit qu'il avait commencé ce matin.
L'hydratation.
Ils ont arrêté, et puis le...
L'hydratation,
On s'en va, je vais voir mon fils, il n'a encore pas trop endormi, laissez-moi.
Nous sommes à France Bleu Champagne. Déjà, Sylvie Bassal, comment se passe un arrêt des soins? Qu'est-ce qui se passe concrètement? La sédation a commencé.
Alors effectivement, la sédation a commencé. Le médecin traitant l'avait annoncé, il le fait. Très concrètement, Vincent Lambert n'est plus alimenté ni hydraté par sonde. La mise en place d'une sédation profonde et continue à commencer. En clair, il est endormi. Les équipes médicales qui sont à son chevet ont juste prévu une hydratation de la bouche jusqu'à son décès. Alors, de source médicale, le décès pourra intervenir dans quelques jours, avant la fin de la semaine. Tout dépendra en fait de sa résistance ou pas, de son état physiologique. On l'entend à l'instant dans la bouche de la maman de Vincent Lambert. Dans un courrier électronique, le docteur Sanchez, le médecin traitant qui a validé le protocole, espère pour monsieur Vincent Lambert, je cite, que chacun saura ouvrir une parenthèse et se rassembler auprès de lui afin que ces moments soient le plus paisibles, intimes et personnels. On sait que ses parents, Pierre et Viviane Lambert, sont entrés dans le service ce matin et qu'une cousine qui n'a pas eu le droit d'entrer a dit qu'elle voulait rester là et entamer un jeûne devant l'hôpital.
Alors c'est la justice qui a décidé de ces arrêts de soins, mais les parents de Vincent Lambert espèrent encore de nouveaux recours.
On va dire qu'ils ne lâchent rien, les avocats non plus. Les avocats des parents de Vincent Lambert utilisent tous les leviers. Ils disent avoir saisi une nouvelle fois la Cour européenne des droits de l'homme selon une procédure d'urgence pour demander le maintien des soins prodigués à leur fils. Mais quel sens a cette action puisque la Cour européenne s'est déjà prononcée sur le dossier et la situation juridique n'a pas évolué depuis. Le processus d'arrêt des soins a bien été validé. Alors ils ont aussi parlé d'une plainte disciplinaire, mais devant qui on ne sait pas trop, devant le Conseil de l'Ordre des médecins, ils n'en ont clairement pas le pouvoir. En fait, ils occupent le terrain médiatique. Les avocats sont devenus acteurs du combat. Ils veulent faire pression sur l'hôpital, mais aussi sur le médecin traitant de Vincent Lambert.
Merci Sylvie Bassal à France Bleu Champagne. France Bleu Champagne Ardennes qui a connu un week-end agité avec des casseurs qui ont brisé les vitres de la station à Reims en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Un acte de vandalisme dénoncé par France Bleu, Radio France, le maire de Reims et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Des taxis, des auto-écoles et des ambulanciers manifestent depuis ce matin avec des opérations escargots autour de Paris, mais aussi à Toulouse, Strasbourg ou Dijon.
C'est le projet de loi d'orientation des mobilités qui est dans le viseur. Les syndicats d'auto-écoles ne veulent pas de la réforme du permis de conduire telle qu'elle est présentée. Les ambulanciers sont contre la réforme de financement des transports. Et les taxis craignent une concurrence accrue des VTC.
Walid est taxi parisien depuis 6 ans.
Ah, la casquette. De payer une licence, de payer ses charges, de payer les impôts, de tout payer, c'est tout faire dans les règles. Et on voit qu'il y a des personnes qui font le même métier que nous, qui ne respectent pas la loi n'est pas respectée. Et ça fait mal, ça fait mal. Nous, à la fin du mois, c'est dur, franchement, c'est dur. en espérant que le gouvernement nous écoute un peu. Parce que si on sort, ça nous fait pas plaisir, on perd encore une journée, mais on est obligé vu qu'on nous écoute pas. Voilà, quand à la fin du mois, il y en a, ils ont même pas de quoi vivre. Il y a des personnes qui ont acheté leur licence à plus de 250 000 euros. Moi, j'en connais qui ont perdu leur femme, leurs enfants, parce qu'ils font du 7-7, qui travaillent 16 heures par jour. Non, c'est dur.
L'opération escargot des taxis, auto-écoles et ambulanciers avec les bouchons éventuels est à suivre sur francebleu.fr.
Dans une semaine, à cette heure-ci, on parlera des résultats des élections européennes. Autrement dit, il reste peu de jours pour s'y intéresser et y voir plus clair aussi, avec les 34 listes en présence en France.
Voilà l'état d'esprit de Marie. À 6 jours du vote, Marie est une Toulousaine un peu déboussolée.
Dans l'absolu, ça m'intéresse, bien sûr, mais c'est surtout que ça m'inquiète parce qu'il y a 34 listes, je crois, et je sais absolument pas pour qui je vais voter. Je sais pour qui je vais pas voter, mais j'ai pas eu le temps de dépiauter les listes, de voir ce que proposaient ceux qui éventuellement pourraient m'intéresser. Et donc, pour l'instant, ça reste très opaque. Mais à l'idée européenne, ça m'inquiète parce que pour l'instant, c'est les extrémistes qui s'en sortent le mieux et je veux pas qu'il y ait de ça. Et en même temps, je veux pas faire un vote raisonné. Et disons que le problème, c'est que la prise de décision, elle est pas au niveau de ceux qui sont élus, quoi. Donc, effectivement, c'est plus du bureaucratique. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'en votant, on prenne un réel pouvoir. L'Europe, elle n'a qu'une action réglementaire qui reste très au-dessus de ce qu'on peut vivre au quotidien, quoi.
Eh bien, voilà le sujet posé. Quel est le pouvoir de l'Europe? Va-t-on enfin parler des enjeux européens cette semaine, à commencer par ce soir, Nicolas Ballu, avec deux débats à la télé?
Oui, c'est vrai que l'élection ne peut être vraiment résumée à un stop ou encore, même si fédéraliste contre nationaliste est une façon d'englober toutes les problématiques en une seule, un peu réductrice.
Les têtes de liste feraient bien d'écouter Marie la Toulousaine, donc.
Bah oui, et de lui dire que, en réalité, le Parlement européen a un pouvoir, il a des pouvoirs. Il a le pouvoir de voter les lois, et sur un nombre croissant de sujets, et c'est le Parlement, désormais, qui nomme le président de la Commission européenne, qui défend une vision politique. Et donc, ces élections vont aussi servir à cela.
Mais c'est compliqué.
Oui, et c'est tout le problème. D'autant que certains sujets, comme l'Europe sociale, n'existent pas. Difficile, donc, de parler directement du pouvoir d'achat. Maintenant, c'est à l'échelon européen qu'il faut répondre précisément et concrètement à un certain nombre de questions. L'Europe face à la guerre commerciale, les sous, comment fait-on avec la contribution de la Grande-Bretagne en moins, la répartition entre la politique agricole commune, nos agriculteurs l'attendent, la défense, le changement climatique, de nouveaux enjeux auxquels il faut répondre, les migrations sont source de crispation, comment gérer les déplacements dans l'Union européenne?
Et le Parlement a son mot à dire sur ce budget?
Oui, alors sauf que le Parlement, c'est quoi? C'est 709 députés et la France en envoie combien? 79. Ça veut dire que les députés français seront aussi dépendants d'alliances ailleurs en Europe et des positions des autres États, ce qu'ils oublient de dire aujourd'hui.
Nicolas Ballu, merci Nicolas.
Après une première semaine consacrée au seul délit de fraude fiscale, le procès des époux Balkany reprend aujourd'hui à Paris pour 5 semaines.
Il est question cette fois d'accusations plus lourdes, de blanchiment et de corruption pour le maire Les Républicains et de sa première adjointe de Levallois-Perret dans l'Ouest parisien. Et le couple ne sera pas seul à la barre, Sylvie Charbonnier.
Oui, en effet, beaucoup de monde prévu à la barre cette semaine, autour de Patrick Balkany, d'abord son épouse et première adjointe, Isabelle Balkany, à qui, comme cela a été dit la semaine dernière, les médecins interdisent de venir au tribunal. Leur fils, Alexandre, soupçonné d'avoir souscrit 2 baux de location fictifs. Également Jean-Pierre Aubry, ancien basketteur et bras droit du maire de Levallois, décrit comme la cheville ouvrière du montage financier qui a permis l'achat du riad de Marrakech. L'avocat Arnaud Claude, un ancien associé de Nicolas Sarkozy et intime des Balkany, possible maître d'œuvre dans la création de sociétés offshore. Et puis Mohamed Al-Jaber, le richissime homme d'affaires saoudien, soupçonné d'avoir payé le riad de Marrakech alors qu'il avait en charge la construction de 2 tours à Levallois, en bordure de Seine, 2 tours qui n'ont jamais vu le jour. Donc premier suspense de la journée, savoir qui aura fait le déplacement?
Eh bien, réponse dans quelques minutes, le début de la deuxième semaine du procès de Patrick et Isabelle Balkany à Paris.
13h09 sur France Bleu, la suite d'une heure en France. On va essayer de comprendre l'engouement pour la série Game of Thrones à l'heure de la diffusion du dernier épisode. On passera sur la scène des récompenses du football, mais avant, une nouvelle interdiction de fumer dans des parcs municipaux se profile à l'horizon, et c'est à Nancy que ça se passe.
La mairie veut étendre en fait ce qui existe déjà dans certaines zones de certains parcs, comme à l'intérieur des aires de jeux pour enfants. Et à Nancy, comme ailleurs, la mesure divise les promeneurs, fumeurs ou pas, Mélanie Juvet.
Il y a ceux qui voient la mesure d'un mauvais œil, c'est le cas de ce père de famille en balade, même si dans les parcs, il se cache de ses 2 enfants pour fumer.
J'évite d'être à côté d'enfants, mais bon, je trouve que c'est quand même encore une liberté qu'on a de pouvoir fumer où on veut, quoi. Je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants, quoi.
D'autres en ont simplement marre des interdictions, comme Pascal et Marie-France, un couple de non-fumeurs.
Bon, je pense qu'il faut que chacun fasse comme il a envie, pas non plus trop interdire. On ne laisse pas les gens assez libres, mais bon, tout en respectant le voisin, bien sûr.
C'est la nature quand même, bon, interdire. Je comprends dans les lieux publics de l'interdire, mais quand même dans la nature.
Justement, les mégots sauvages polluent la nature et les comportements de certains énervent Daniel.
Moi, en tant qu'ancienne fumeuse, j'ai toujours trouvé vraiment dégoûtant les personnes qui jettent leurs mégots par terre. Je me demande s'ils font la même chose dans leur appartement ou dans leur maison, parce qu'en fait c'est un geste automatique que les personnes ont et c'est extrêmement polluant. Je ne sais plus combien d'années ça met pour disparaître. Que ce soit interdit dans les parcs, pourquoi pas, parce qu'en fait, si vous allez dans un parc, c'est un petit peu pour vous oxygéner, c'est pour respirer l'atmosphère agréable, puis pour les enfants, puis même pour les personnes qui sont incommodées par le tabac. Donc oui, c'est bien.
Un mégot de cigarette peut mettre jusqu'à 12 ans à se décomposer.
Les interdictions de fumer dans les parcs municipaux qui se multiplient en France. Mélanie Juvet à France Bleu Lorraine.
En football, c'est l'heure des récompenses avant une dernière journée de E-League 1 vendredi soir.
Le meilleur joueur et meilleur espoir du championnat de France est Kylian Mbappé qui a glissé qu'il sera parisien ou pas la saison prochaine. Ce qui a un peu éclipsé le trophée du meilleur entraîneur par exemple décerné à l'entraîneur de Lille, Christophe Galtier.
Le trophée du meilleur joueur français évoluant à l'étranger a été remis à Karim Benzema au Real Madrid.
Et celui de la meilleure joueuse féminine à l'allemande Jennifer Marozan qui vient de remporter la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais.
On ne voulait pas laisser partir Nilda Fernandez comme ça. Il est mort ce week-end à l'âge de 61 ans.
On aimait bien ce chanteur né à Barcelone qui a grandi à Lyon et qui chantait Madrid.
Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Ses yeux derrière mes ventes. Madrid, Madrid, les choses que je pense sont un petit air d'accordéon rose quand elle n'est pas avec moi.
Nilda Fernandez, mort ce week-end à 61 ans d'insuffisance cardiaque.
Et sinon, pourquoi ces cris de joie, ces sanglots et même des scènes d'hystérie hier soir aux États-Unis? Pourquoi des millions d'Américains envisageaient de ne pas aller travailler aujourd'hui pour se remettre de leurs émotions?
C'était la dernière de Game of Thrones diffusée ce soir en France. La série qui enflamme les écrans depuis 2011, il faut nous expliquer cette passion qui dépasse certains, Anne Orenstein.
Oh, pourtant, c'est une passion méritée parce que GOT, c'est franchement une machine à émotions. Hein.
Vous avez dit GOT ?
Oui, Game of Thrones. Ah, mais bon, yes. C'est dur à dire, hein, Thrones. Le jeu du trône, c'est toute la question. Qui va s'asseoir sur le trône de fer ? Qui va régner sur le royaume des sept couronnes à Westeros ? D'où ces intrigues très politiques, ces jeux de pouvoir, de manipulation, de diplomatie avec des alliances, des traîtrises. GOT ne prend pas son spectateur pour un idiot. Les intrigues sont riches, vous avez une galerie de personnages foisonnants, il faut vraiment être attentif, jusqu'au générique qui change chaque semaine, survol de ce royaume fictif de Westeros, on y voit les lieux où va se passer l'action de l'épisode de la semaine. C'est une série d'auteurs. Et d'ailleurs, à la base, ce sont des livres.
Hein. D'un auteur assez féministe. Hein.
Oui, oui. Et puis, c'est là aussi l'intérêt de cette série. Les femmes y ont des rôles décisifs. Daenerys, la mère des dragons. Cersei, la reine impitoyable. Arya Stark, la brindille, guerrière. Elles éclipsent les hommes, hein, ces femmes. Même s'ils leur en font voir de toutes les couleurs, il n'y a pas de tabou dans GOT. Sexe, violence, inceste, adultère, parricide. Et puis surtout, les auteurs n'hésitent pas à tuer les personnages qu'on préfère. Personne n'est à l'abri.
Anne, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une série d'intello ?
Oh, c'est surtout une série très populaire, avec du grand spectacle. Il y a des dragons, il y a des scènes de bataille impressionnantes. Tout ça dans des décors somptueux, des décors réels, de l'Irlande au Maroc, en passant par l'Islande ou la Croatie, Dubrovnik. C'est d'ailleurs devenu une manne touristique pour tous ces pays et ces villes.
Mais je suis le seul autour de la table à ne jamais avoir vu GOT.
Non, je ne pense pas.
Ah, moi, je l'ai vu. Je suis...
2 sur 4, 50%. Vous avez parlé de dragons,
oui,
Anne, dans la série.
Trois dragons. Enfin, au début, en tout cas.
Bah, on va continuer, hein, parce qu'il y a un dragon qui arrive dans une heure en France. Il ne vient pas des États-Unis, mais de Nantes. Et il va atterrir à Calais. Le Dragon des Mers va s'installer sur le front des mers à Calais.
Donc Calais, avant de tester des tongs et des maillots de bain au Pays Basque et de s'essayer à la teinture naturelle. Voilà la météo du jour.
Francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.